La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Les réputations de Marie-Antoinette. Reine de France, elle fut autant détestée qu'adulée, de son vivant et bien après sa mort. Par Antoine de Bec, historien, professeur à Normale Sup, auteur. Un foisonnement contradictoire de réputation s'est emparé de Marie-Antoinette dès son arrivée à Versailles en 1770, alors que la princesse d'Autriche n'a pas 15 ans, jusqu'à sa mort 23 ans plus tard, le 16 octobre 1793, sous le couteau de la guillotine républicaine, reine de France aussi détestée par certains qu'elle peut être vénérée par d'autres. D'ailleurs, aucune figure historique n'a connu davantage de dénomination, de surnom, voire de sobriquet. D'un côté, l'archiduchesse Antoine ou Antonia, la reine de France, la reine martyr, la mère exemplaire, figure de la dignité royale. De l'autre, l'autrichienne, l'autre chienne, la poule d'autruche, Toinette, la bergère royale, Madame Déficit, la catin royale, la fureur utérine, la messaline royale, Madame Veto, la veuve Capet. De son vivant, puisqu'elle fut au centre de bien des campagnes de propagande ou de presse, puis après sa mort, ses représentations multiples ont rythmé son existence du culte à la haine, de la curiosité au mimétisme, engendrant une moisson de témoignages, d'hommages, de récits insultants et de reflets visuels, comme si chaque parti avait voulu construire sa reine.
Même monsieur et madame, je sais tout, écoute Sirius Audio. Sirius Audio ?
Une monnaie d'échange diplomatique. À son arrivée à Versailles, dauphine de France, mariée lors de grandes fêtes mémorables au petit-fils de Louis XV, son éclat semble rayonner. Madame Campan, sa femme de chambre, place très honorifique, décrit dans ses mémoires ce charisme et l'intérêt qu'il suscite. Madame la dauphine, éclatante de fraîcheur, parut mieux que belle à tous les yeux. Sa démarche tenait à la fois du maintien imposant des princesses de sa maison et des grâces françaises. Ses yeux étaient doux, son sourire aimable. Louis XV fut enchanté de la jeune dauphine. Il ne parlait que d'elle, et il n'était question que de ses grâces, de sa vivacité et de la justesse de ses réparties. Elle obtint encore plus de succès lorsqu'on la vit dépouillée de tout l'éclat des diamants dont elle avait été ornée pendant les premiers jours de son mariage. Vêtue d'une légère robe de gaze ou de taffetas, on la comparait à la Vénus de Médicis, à la Talente des jardins de Marly. Les poètes célébraient ses charmes, les peintres voulurent rendre ses traits. Il y en eut un dont l'idée ingénieuse fut récompensée par Louis XV. Il avait imaginé de placer le portrait de Marie-Antoinette dans le cœur d'une rose épanouie.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Mais cette arrivée suscite également des jalousies féroces. Madame du Barry, la favorite de Louis XV, qui s'en trouve soudain presque oubliée, fait tout pour ternir ce portrait, et les courtisans se divisent. Madame Campan décrit assez bien pourquoi, toujours en parlant de Marie-Antoinette, dès ses premiers pas, elle avait découvert les personnes qu'elle devait saluer avec les égards du haut rang, celles à qui elle accorderait une inclination de tête, celles enfin qui devaient se contenter d'un sourire, en lisant dans ses yeux un sentiment de bienveillance fait pour consoler de n'avoir pas de droit aux honneurs. Il suffit d'un oubli ou d'une confusion pour déclencher les rancœurs. Elles fermentent en regard des circonstances. La princesse sert de monnaie d'échange pour une mère autoritaire, Marie-Thérèse d'Autriche, qui place ses filles, telles des espionnes à son service, sur les trônes d'Europe, ambitieuse stratégie diplomatique matrimoniale. Marie-Antoinette est ainsi condamnée à un exil lointain où elle sera forcément l'étrangère, l'autrichienne, et contrainte à un mariage avec un jeune homme de 16 ans, peu attentionné, maladroit, affublé d'un léger empêchement physique qui la délaisse. Enfin, une fois à Versailles, le désir de Marie-Antoinette d'échapper à l'étiquette de la cour de France n'est pas compris. Tout cela suscite les soupçons, entraîne les attaques, aiguise les humiliations.
L'éléphant et Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Marie-Antoinette est exemplaire de la nouvelle conception de la célébrité, telles qu'elles se mettent en place à la fin du XVIIIe siècle. La reine de France suscite chez le public le désir d'en savoir davantage sur sa persona. D'où la multiplication des ouvrages qui, très tôt, ont tenté de dresser le portrait psychologique d'une femme qui voulait se dérober à son statut traditionnel. C'est cette logique qui prend au piège Marie-Antoinette et le couple qu'elle forme avec Louis XVI, expliquant en bonne partie les rumeurs négatives dévastatrices sur son prétendu libertinage, relayé avec perversité et jubilation par les coteries courtisanes qui lui sont hostiles, abreuvant les pamphlets et les caricatures d'anecdotes scabreuses.
Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
L'obscénité mise en scène. Pourtant, l'intimité sexuelle du couple royal, dès le mariage de 1770, a été retirée du domaine des choses publiques. Marie-Antoinette et Louis sont sur ce point en accord. Peu de leur vie privée n'a droit à la publicité de l'étiquette versaillaise, préservant les secrets du lit monarchique, par crainte des quolibets comme par choix personnel. Car secret il y a, qui mettent en émoi la diplomatie européenne et les cours, tant à Vienne qu'à Versailles. Jusqu'en août 1777, soit pendant 7 années, le mariage n'est pas consommé. Dans l'obligation de procréation monarchique, ce retard est un problème. Les libellistes pratiquent dès lors le regard dérobé. Selon l'étiquette, l'intimité du couple monarchique, que ce soit le coucher, la toilette, le souper, mais aussi l'acte procréateur, est offerte au regard public à travers un cérémonial codifié dont les courtisans sont à la fois les témoins et les propagateurs. Dans l'écriture du scandale de la fin du XVIIIe siècle, au contraire, l'intimité du couple est renforcée, mais pour mieux en décrire les secrets et les tromperies. Le rituel du lit royal n'est plus une cérémonie publique, mais une comédie où un regard volé rapporte l'intimité sexuelle qui s'y déroule ou qui ne s'y déroule pas, voilà l'intrigue. Une porte s'est refermée sur la vie privée de la reine et du roi, par la volonté même des souverains, mais à travers cette porte, les pamphlétaires veulent regarder, puisque c'est interdit, point de vue du trou de la serrure.
Il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont sérieux. Vous êtes sur Sirius Audio.
Ainsi, la pornographie constitue-t-elle le principal registre de l'attaque contre Marie-Antoinette? Un refrain amuse beaucoup les Parisiens au printemps 1776. La reine a le puce inhérent, le roi le prépuce adhérent. C'est le pré qui gâte l'affaire. Cette double allusion, au goût de Marie-Antoinette pour la couleur puce, gris-souris, et à la malformation sexuelle du roi, est non seulement tendancieuse, mais ouvre la logique de la rumeur qui inverse et retourne les images officielles en caricature obscène. La naissance d'une princesse en décembre 1778, puis des 3 enfants royaux qui suivent, entre 1781 et 1786, déplace simplement le scandale. Les enfants ne seraient pas de Louis XVI, mais du comte Charles d'Artois, son frère, ou des nombreux amants attribués à la reine. C'est l'intrigue centrale des amours de Charlot et Toinette. Pamphlet paru en 1779, beaucoup l'ont attribué à Beaumarchais, une reine jeune et fringante dont l'époux très auguste était mauvais fouteur. Le dévoiement lubrique de Marie-Antoinette n'est que la conséquence de l'impuissance du roi. Aller chercher ailleurs ce que son mari est incapable de lui donner. Le canevas du cocufiage de comédie est implacable. Ces pamphlets seront simplement repris et aggravés par les débuts de la Révolution. C'est le cas de la vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, qui en 1791 imagine une liaison entre la reine et Lafayette, incarnant le nouveau pouvoir. Marie-Antoinette se pénètre de la patrie. Puis des fureurs utérines de Marie-Antoinette, pamphlet de 1791, qui offre aux rieurs un roi nul, s'escrimant pathétiquement devant une Marie-Antoinette dépitée. Le sire était si mou que les yeux de Toinette et tout l'art de sa dextre, rien ne ravitailla le bijou monarchique. Puis finit ce constat pathétique. « Ah, gros coquin, voilà que tu débandes !» La faiblesse du roi, L'impuissance politique est sans cesse suggérée. Et la lubricité d'une reine vorace de sexe et d'expériences scandaleuses, voici forgé le portrait de la reine scélérate.
La culture générale par Sirius Audio et l'éléphant.
Malgré ces rumeurs néfastes, ou plutôt pour y répondre, jamais une reine de France n'a déployé tant d'efforts pour propager une image positive d'elle-même. Marie-Antoinette règne donc sur la propagande. Ses liens avec sa portraitiste officielle, Élisabeth Vigée-Lebrun, l'illustrent exemplairement. Le premier tableau de la peintre, en 1779, présente la reine vêtue d'une impressionnante robe de cour à paniers de satin blanc, en majesté dans un décor luxueux. C'est un portrait du pouvoir, mais également une offrande sensible, cherchant à ôter pesanteur et hiératisme. La lourde traîne fleur d'Élysée est traitée comme une gaze légère et l'artiste, par sa palette lumineuse, révèle l'éclat d'une femme de 23 ans. Très vite, l'œuvre est répliquée, copiée, mise en gravure, afin de pouvoir circuler massivement dans le royaume. Au salon de 1783, Élisabeth Vigée-Lebrun présente un autre portrait. La reine est habillée d'une robe de soie bleu-gris, tenant une rose à la main, qu'elle semble exposer au public. Cette fleur lui confère une grande douceur, mais elle représente la reine elle-même, qui s'invente son propre symbole, ignorant ceux de la monarchie traditionnelle. Le tableau fait scandale. La reine paraît-elle trop légère, affranchie, voire dénudée? Et cette rose qu'elle tient à la main, ne pourrait-elle pas l'offrir à l'un de ses prétendants?
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.
L'attaque systématique. Cette logique de la réversibilité frappe dès lors toutes les actions de Marie-Antoinette, tournant négativement ce qu'elle peut entreprendre de positif. Aime-t-elle la mode et lance-t-elle la haute couture en France avec Rose Bertin, sa modiste, et Léonard, son coiffeur? Et la voilà dépensière, frivole, ministre des colifichets, grévant les finances du royaume en préférant les tissus anglais aux français. Élève-t-elle ses enfants, première souveraine française, à vouloir le faire vraiment, et la voici égoïste, autoritaire, les rumeurs de mauvaise mère la poursuivant jusqu'à son procès, en octobre 1793, où l'accusation diffusera odieusement une réputation d'inceste. Fait-elle construire un hameau et une bergerie à Trianon pour vivre plus proche de la nature avec ses enfants et la lecture de Jean-Jacques Rousseau, et elle se métamorphose en bergère ridicule, précieuse, mimant le peuple tout en le faisant mourir de faim. À chaque reprise, la réputation se retourne contre elle, ouvrant de nouvelles brèches dans la guerre des pour et des contre. Enfin, dans les premiers mois de 1789, Marie-Antoinette devient une reine politique, se déclarant hostile aux idées nouvelles et à ceux qui veulent limiter le pouvoir royal pour le contrebalancer par celui de l'Assemblée nationale. Cette haine de la Révolution, sa volonté de jouer un rôle politique pour rétablir une monarchie que Louis XVI lui semble impuissant à tenir, relance la guerre autour de son image.
Le savoir s'écoute sur Sirius Audio.
Les royalistes en font l'emblème de leur combat pour l'ordre ancien et la défense de leurs privilèges, et lui vouent dès lors un culte, se réunissant enfin derrière ce symbole, jusqu'à vénérer la mère exemplaire, la prisonnière digne du temple et de la conciergerie, la sainte de l'échafaud de la terreur, en diffusant les objets reliques de leur dévotion, boucles de cheveux, mots manuscrits, morceaux d'étoffe, reliquaires, souliers, bustes en cire, tout ce qui a touché de près ou de loin, voire parfois de pure invention, le corps de la reine devient sacré et occasion d'hommage, de souvenirs et d'expiation. C'est ainsi que Marie-Antoinette rencontre l'histoire, assumant son destin tragique.
Ça fait du bien, non ? Normal. Vous êtes sur Sirius Audio.
En face, le discours et l'imagerie révolutionnaire, puis républicaine, achèvent de dresser la légende noire d'une reine méprisant le peuple. Qu'il mange de la brioche. Phrase apocryphe qu'elle aurait lancée aux pauvres de Paris en octobre 1789. Et étrangère, donc forcément traîtresse. Cela trouve confirmation dans les agissements de Marie-Antoinette. Contre-révolutionnaire, elle tente d'acheter des alliances avec les meneurs patriotes, Mirabeau, Barnave, Lafayette, en les corrompant et envoie espions et agents dans Paris pour obtenir des renseignements en tentant de tourner l'opinion en sa faveur. Cette réputation hostile trouve elle aussi son apogée avec la mort de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. Jacques-Louis David, le peintre officiel de la République, la saisit alors qu'elle est conduite au supplice, stoïque, calme, vieillie. Ce dessin est le pendant négatif des portraits de Vigier-Lebrun, d'un réalisme et d'une crudité sans fard, ne laissant de la reine que le pincement des lèvres si caractéristique de la morgue royale dénoncée par les républicains. Ceux-ci font de la tête coupée de Marie-Antoinette l'emblème de leur pouvoir. Image choc et sanglante qui envahit la sphère publique après le supplice de la reine, dont la tête tranchée est montrée au peuple par le bourreau.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
En un peu moins d'un quart de siècle, la figure de Marie-Antoinette est devenue une véritable planche à images dont la production s'est souvent emballée en fonction d'un événement, de l'actualité politique ou culturelle, de la vogue d'un motif, suivant toujours le canevas de la réputation, qu'elle soit favorable ou hostile. La représentation de Marie-Antoinette n'en est pas sortie indemne au regard de l'histoire. Elle fut à la fois la reine la plus détestée de France, une grande part de sa vie, alors qu'elle se révéla pourtant une plutôt bonne souveraine, originale et innovante, puis son destin tragique changea le personnage en forgeant l'idée d'une belle mort, injuste, cruelle, la transformant quasi en martyr, alors que pourtant elle fut sûrement la figure la plus hostile à la Révolution, causant un tort préjudiciable à la monarchie française, qui, accrochée à ses crispations traditionnelles, ne pouvait plus se maintenir en France en persistant dans son absolutisme.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.